France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, les débuts de Serge Gainsbourg, première partie. Les 30 ans de la disparition de Serge Gainsbourg sont pour nous l'occasion d'explorer durant plusieurs semaines l'époque la moins connue de son parcours, celle de ses débuts. Une période de formation dont il n'aimait pas tellement se souvenir, mais qui a été cruciale pour son développement artistique. C'était le monde des petits cabarets et des lieux de chansons de Paris. C'était aussi le temps des interprètes qui ont contribué à faire connaître ses premières chansons alors que lui n'avait pas de succès sur scène. Complexé par son physique, traqueur, sans chaleur, il n'avait rien du jeune premier. Dans cette série, nous évoquerons notamment les personnages qu'il a croisés, sans lesquels ce garçon à la vie intérieure très riche n'aurait jamais pu émerger. Lucien Gainsbourg est né en avril 1928 à Paris, de parents juifs réfugiés de Russie après la révolution bolchévique. Il a grandi dans une famille cultivée mais peu aisée. Son père, musicien nourri de culture classique, reportait sur lui ses ambitions artistiques, tant en peinture qu'en musique. Lucien a ainsi fait les beaux-arts et s'est lancé dans la peinture, tout en étudiant la musique, comme il l'évoque ici en janvier 1965 sur France Inter.
Serge Gainsbourg, votre nom est-il vraiment russe ?
Oui, d'autant plus que mon prénom réel est Lucien. Je me suis permis de m'appeler Serge parce que j'avais la nostalgie de la Russie, c'est tout. Et ma mère était à Odessa, elle apprenait là-bas le chant classique. Et c'est pour ça qu'à présent, elle se désole tellement sur ma voix cassée. Quant à mon père, il a appris le piano et puis il me l'a appris avec un mouchoir sur le coin du clavier. Tellement ça m'était pénible. Et quelques années après, eh bien j'ai commencé à gagner ma vie dans des orchestres de tziganes. D'ailleurs, je pourrais essayer de pianoter quelque chose. Ou alors quelque chose comme ça, un peu plus rapide, si vous voulez.
Plus encore que la musique, la peinture est la grande passion de Serge, où il s'est essayé à différents genres, mais il a fini par abandonner tout espoir de carrière dans ce domaine, au point de détruire régulièrement la plupart de ses œuvres. Serge multiplie les petits boulots, exerçant notamment ses talents de musicien dans les bars de nuit et dans les bals. Son père, Joseph Gainsbourg, le recommande comme pianiste d'ambiance dans un restaurant du Touquet, où il passe donc toutes ses vacances. Une chanson écrite un peu plus tard, qui figure sur le premier disque 25 cm de Serge Gainsbourg en 1958, fait figure de chef-d'œuvre méconnu. Intitulée « L'alcool », elle décrit le quotidien d'un ouvrier, mais reflète assez bien le climat que vit alors l'apprenti musicien à l'époque des pioles, des petits boulots et des œufs au plat.
Mes illusions donnent sur la cour, des horizons j'en ai pas lourd. Quand j'ai bossé toute la journée, ne me reste plus pour rêver que les fleurs horribles de ma chambre. Mes illusions donnent sur la cour. J'ai mis une croix sur mes amours. Les petites pépées pour les toucher, faut d'abord les allonger, sinon c'est froid comme en décembre. Quand le soir venu m'en revient du chantier, après mille peines et le corps harassé, J'ai le regard mort et les mains dégueulasses. De quoi inciter les belles à faire la grimace. Bien sûr, il y a les filles de joie sur le retour, celles qui mâchent le chewing-gum pendant l'amour. Mais que trouverais-je dans leur corps meurtri, sinon qu'indifférence et mélancolie, dans mes frusques couleurs de muraille. Je joue les épouvantails. Mais nom de Dieu dans mon âme, brûlait pourtant cette flamme où s'éclairaient mes amours et mes brèves fiançailles, où se consumaient mes amours comme autant de feux de paille. Aujourd'hui je fais mon chemin solitaire, toutes mes ambitions se sont fait la paire. Je me suis laissé envahir par les orties, par les ronces de cette chienne de vie.
Membre de la SACEM à partir de juin 1954, Serge Gainsbourg commence à composer des chansons sous le nom de Julien Gris, parfois avec l'aide d'un ami nommé Diego Altez. Il tente de les placer auprès de vedettes de la chanson d'alors, mais sans succès. Début 1955, il écrit même des refrains pour la nouvelle revue du cabaret de transformistes Madame Arthur, où Joseph Ginsburg a été employé comme pianiste durant des années. Pour s'assurer un revenu régulier, Serge travaille comme musicien au cabaret Milord Larsouille, le seul établissement de style rive gauche implanté depuis 1949 sur la rive droite, dans un sous-sol du Palais Royal. Son directeur artistique, Francis Claude, a plus d'une corde à son arc, car il est également parolier, animateur de radio et humoriste. Auditionné par Jacques Lasserie, le chef du petit orchestre de Milord Larsouille, Serge Gainsbourg est entré dans l'équipe en octobre 1954 comme guitariste et pianiste d'ambiance. La principale attraction du lieu est Michèle Arnaud, chanteuse très BCBG, mais pleine d'intuition et de discernement artistique, qui est aussi la compagne de Francis Claude. Au cours des années 50, de nombreux chanteurs et vedettes en devenir passeront chez Milord Larsouille. Souhaitant se consacrer à ses recherches musicales, Jacques Lasserie est remplacé à l'automne 55 par le pianiste François Marly. Un disque 25 cm, publié en 56 par le label Ducretet Thompson, intitulé « Une soirée chez Milord Larsouille », nous permet d'entendre Michèle Arnaud interprétant trois titres, accompagné par un trio où le guitariste n'est autre que le discret Gainsbourg.
Présenter Michèle Arnaud chez Milord Larsouille, c'est parfaitement inutile. Puisque vous la connaissez tous, je me contenterai donc de dire que voici, accompagné par François Marly et son trio, le plus beau fleuron de notre couronne, Michèle Arnaud.
Bien, ben je vais d'abord vous chanter une chanson de Christian Guitraud qui s'adresse spécialement aux jeunes gens et qui s'appelle « Ne crois pas ». Si on te dit que t'as une belle gueule, y a pas de quoi t'en vanter. Et au lieu de faire le bégueule, tu ferais mieux d'en profiter. Ne crois pas que toute ta vie, on t'aimera pour tes beaux yeux. Car si ta gueule fait envie, c'est que t'es jeune et rien de mieux. Ne crois pas que tu seras toujours beau gosse. Ne crois pas que ta jeunesse durera. Tu seras comme tout le monde avec le teint des catis, le bidon en mappe monde et toutes les dents desserties. Quand tu auras le crâne bien lisse, le geste mal assuré et le regard en coulisses, t'iras te faire réparer. Ne crois pas que tu seras toujours beau gosse. Ne crois pas que ta jeunesse durera. Tu te crois malin à vouloir jouer les insondables, les intouchables, du début jusqu'à la cinglinglin. C'est pas sérieux, les Hermès, Adonis, les Hercules qui déambulent sans songer qu'un jour ils seront vieux. Si on te te dit que t'as une belle gueule, y a pas de quoi t'en vanter. Et au lieu de faire le bégueule, tu ferais mieux d'en profiter. Ne crois pas que toute ta vie, on t'aimera pour tes beaux yeux. Car si ta gueule fait envie, c'est que t'es jeune et rien de mieux. Ne crois pas que tu seras toujours beau gosse. Ne crois pas que ta jeunesse durera. Ne crois pas, ne crois pas, ne crois pas. Que ta jeunesse durera.
Au printemps 1955, Francis Claude et Michel Arnaud ont fait une découverte capitale par l'entremise d'un de leurs pensionnaires occasionnels, l'humoriste Roger Comte. Un soir, dans la loge, Serge Gainsbourg lui a confié qu'outre ses talents de musicien accompagnateur, il écrit des chansons, chose qu'il n'ose pas dire lui-même à ses patrons. Cette révélation, due au biographe Frédéric Régent, infirme la version officielle qui veut que Francis Claude et Michel Arnaud aient découvert les chansons de Serge lors d'une visite dans sa chambre de bonne, avenue Bugeaud. Au cours des années 55 et 56, Gainsbourg continue à écrire des chansons, parfois avec la collaboration d'autres auteurs, qu'il destine à des interprètes divers, mais la plupart resteront dans ses cartons. Les choses vont évoluer lorsque Serge verra sur scène un personnage totalement atypique et mort de trac, en la personne de Boris Vian, qui chante des textes décapants. L'influence de Vian, y compris par le biais de ses interprètes comme Mouloudji ou Philippe Clay, commence à se faire sentir dans l'écriture de Serge. Au départ mélancolique ou sentimental, son ton va devenir satirique, iconoclaste, corrosif. C'est le cas des chansons qu'il livre en juin 57, « Mes petites odalisques »,« Le poinçonneur des lilas »,« Friedland » et « Ronsard 58 », cette dernière sur un texte du poète amateur Serge Barthélémy, rarement crédité. Séduite par cette écriture originale et audacieuse, Michel Arnaud estime que Gainsbourg est arrivé à une certaine maturité et l'incite désormais à les chanter lui-même, ce que Francis Claude accepte sans hésiter. Elle songe même à le faire auditionner dans sa maison de disques, Ducretet Thompson. Serge se rôde durant l'été au Touquet, puis commence à chanter au Milord Larsouille à la rentrée d'octobre 57, tout en continuant à assurer l'accompagnement des autres artistes, comme Francis Claude le racontera lors d'un débat sur France Inter en juin 59.
Eh bien, Gainsbourg, je l'ai connu, il était venu au Milord Larsouille, non pas comme chanteur, mais comme joueur de guitare, car c'est un musicien, c'est un excellent musicien. Il jouait de la guitare de jazz dans l'orchestre. Par la suite, il s'est mis à jouer du piano. Il remplaçait le pianiste quand il n'était pas là, puis il a pris la place d'un pianiste et qui a été défaillant. Il fait également de la peinture. Et je dois dire que rien de ce qui est artistique ne lui est étranger.
C'est l'homme orchestre.
Oui, et un beau jour, alors il s'est mis à écrire des chansons qu'il a montrées. Et Michel Arnaud s'est emballé pour ses chansons. Et je dois dire que c'est elle qui lui a donné les plus précieux encouragements au début en lui disant « Faites des chansons, parce que vous faites de bonnes chansons. » Il y a quelques chansons qui s'appelaient « Défense d'afficher »,« Mes petites odalisques ».
Oh, c'est charmant, « Mes petites odalisques ».
Enfin, un tas de chansons dont les titres me reviendraient facilement en mémoire, d'ailleurs. Et puis, ces chansons, un beau jour, il s'est mis à essayer de les interpréter lui-même. Alors, il a commencé par le début, contrairement à ce que font beaucoup de jeunes. Il y en a une un jour qui m'a dit « Je ne veux pas travailler parce que j'abîmerai ma nature ». Il s'est mis à travailler. Il ne sortait pas une note au début. Il a appris à chanter un petit peu, et puis un jour, il a fait ses débuts sur la scène de Milord Larsouille, où il a reçu un accueil triomphal, et depuis, il a continué, et il y est toujours.
Tour de chant, Martin Pennet, France Musique.
Ne me raconte pas ta vie, tu me l'as déjà servi. Si t'as des trous de mémoire, pas la peine de le faire voir. Je la connais par cœur, c'est la même que ta sœur. Toujours la même chanson, je la connais à fond. C'est toujours le même disque, mes petites odalisques. Tourner, tourner, tourner en rond, 33 petits tours et puis s'en vont les fredaines, restent les rengaines. Alors s'en vont les amoureux, rêver à la chaleur du pieux souvenir de celles qui furent un jour infidèles, parce qu'elles en avaient assez, assez d'entendre sasser. Toujours le même disque, mes petites odalisques, tourner, tourner, tourner en rond, comme tourne, tourne ma chanson. Toi qui as la bague au doigt, si ça te gêne, enlève-la, et tu pourras au lit oublier ton mari. Les rythmes américains nous mettrons dans le bain, on tournera en bourrique. Je connais la musique, c'est toujours le même disque, mes petites petites odalisques. Tourner, tourner, tourner en rond, 33 petits tours et puis s'en vont en Espagne, dans nos cars champagne, les châteaux que nous avons rêvés, en nous rappelant le temps passé, passé à faire et refaire l'inventaire de tout ce qu'il y avait juste en dessous de vos dessous. C'est toujours le même disque, mais qu'est-ce que tu risques, puisque tu sais que c'est du bidon, tu n'as qu'à pas te donner à fond.
Ce précieux document, avec François Marly au piano, a été capté chez Milord Larsouille en décembre 1957, deux mois après les débuts de Serge Gainsbourg comme chanteur. Dans son récit de 59, à l'aune du succès obtenu entre-temps par Serge à travers ses interprètes et dans une moindre mesure par ses ventes de disques, Francis Claude enjolive quelque peu les choses. Les prestations de Serge sur scène durant les premières années sont en effet loin d'enthousiasmer le public. Il vaut mieux se fier par exemple au souvenir de Catherine Sauvage, déjà célèbre à l'époque, qui témoignera en 1992 au micro d'Alain Poulenges, comparant assez judicieusement les prestations de Gainsbourg en scène à celles de Boris Vian.
Autant dans la vie, il était relax, comme ça, enfin, très, très cool, très... Autant sur scène, alors il avait l'air malheureux, il avait l'air... il savait pas quoi faire de ses mains, il était planté comme un piquet. Enfin, je sais que les débuts de Boris, les débuts de Gainsbourg étaient à peu près pareils. Je trouve qu'ils étaient à peu près aussi à l'aise sur une scène l'un que l'autre. Ils avaient l'air de poissons qu'on avait mis dans l'air, comme ça, et qui étaient complètement privés de leurs moyens de respirer. Enfin, je sais pas, ils étaient aussi mal à l'aise. Et il y avait un malaise dans la salle. Enfin, il y avait vraiment un malaise. C'était... Mais c'est drôle parce que bon, Serge dans la vie au début il était pareil aussi, il n'était pas plus à l'aise que sur scène. Tandis que Boris c'était étonnant parce que c'était vraiment le contraire de ce qu'il était dans la vie. Enfin dans la vie il était très discret, très mais très très à l'aise, très relax, très souriant, très et sur scène alors on aurait dit un croque-mort, c'était épouvantable. Et ses mains surtout, moi qui me sers beaucoup de mes mains sur scène, ça me semblait tellement étrange, ces deux personnes là qui étaient avec les mains ouvertes comme ça, le raide le long du corps, qui ne bougeaient pas, l'impression qu'ils avaient avalé un piquet et que, oh mon Dieu, c'était dramatique de les voir sur scène. Mais ils se ressemblaient beaucoup, hein. Ils étaient tous les deux pareils avec Gainsbourg, puis il y avait même... de ressemblance physique, comme ça avait l'air de croque-mort tous les deux, c'était horrible.
Dès cet automne 1957, Serge fait ses premiers pas à la radio dans des émissions de Francis Claude comme Monsieur Flûte s'en mêle. C'est à cette occasion qu'il chante pour la première fois le Poinçonneur des Lilas avec des arrangements signés Jacques Lasserie. Mais pour Gainsbourg, le succès viendra d'abord par les interprètes de ses œuvres. Michel Arnaud retient pour sa part deux chansons de lui qu'elle crée en décembre 57 à Milord Larsouille et s'empresse d'enregistrer en janvier 58 chez Ducreux & Thompson avec l'orchestre de François Marly. La recette de l'amour fou et 12 belles dans la peau.
Quand tu auras 12 belles dans la peau, deux duchesses et 10 dactylos, qu'est-ce que tu auras de plus sinon qu'un peu de plomb? Un peu de plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Quand tu auras claqué ton grisby dans toutes les boîtes à coups de fusil, tu ne seras jamais qu'un pigeon avec un peu de plomb. Un peu de plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Quand dans le feu de la passion, aux échelles des banilons, tu grimperas, après, qu'est-ce que t'auras? T'auras du plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Quand tu auras aimé à tout vent, et que tes poules n'auront plus de dents, pour te bouffer le cœur dans la main, eh bien, mon gros malin, t'auras du plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Et quand tu auras passé ta vie, derrière les barreaux de ton lit, tu diras que tu t'en es payé, oui, et puis après, t'auras du plomb dans l'aile, pas plus dans la cervelle. Mais je crois bien que tu ne feras pas de vieux os avec tes 12 belles dans la peau. Tu tomberas un jour sur un gars qui t'enverra du plomb dans la cervelle. Adieu, adieu les belles. Du plomb dans la cervelle. Et il poussera des ailes.
Comme premiers interprètes de Serge, il y a donc d'abord eu Michel Arnaud, mais aussi Philippe Clay. En réalité, on le sait peu, ce dernier a eu une influence décisive sur le parcours de Gainsbourg, au même titre que Boris Vian. Clay et Gainsbourg ont une ressemblance physique évidente qui fait penser à Serge que lui aussi pourrait réussir. Et lorsqu'il va voir Philippe Clay à l'Olympia en mai 57, c'est le déclic. Il veut écrire pour lui. La rencontre se fera par l'entremise de Francis Claude et Serge va commencer à écrire une série de chansons destinées à composer la matière de tout un album prévu chez Fontana. Philippe Clay relate leur rencontre lors d'un long feuilleton enregistré en 1994 à Nantes pour les ateliers de création du Grand Ouest.
Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone d'un copain qui avait un cabaret qui s'appelait Milord Larsouille. Il me dit, Philippe, est-ce que tu veux venir à Milord Larsouille? Je lui dis, oui, pourquoi? Viens. J'ai un garçon qui joue de la guitare et un peu de piano et qui fait des complexes parce que tout le monde lui dit qu'il te ressemble. Oh, c'est agréable. Il fait des complexes en plus. Il me dit, oui, oh, viens le rassurer. J'arrive là-bas et je tombe sur un garçon charmant, d'ailleurs, timide, comme c'était pas permis. Il s'appelait Serge Gainsbourg. Et on est devenus très, 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 très copains. Il a essayé de me faire des chansons, ça n'a jamais bien marché. Il avait écrit une chanson qui s'appelait « Le poinçonneur des lilas ». Tout le monde est persuadé que c'est moi qui l'ai chantée. Je n'ai jamais chanté cette chanson parce que je ne la sentais pas. On est bête, hein, des fois, on fait des bêtises. Quelle jolie chanson. On est devenus très amis avec Serge puisqu'il est venu à la maison. On a parlé longuement. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit « Je fais de la peinture ». Il m'a dit « On peut en voir ?»« Non, j'ai tout brûlé. »« Ah bon ?» Et puis, à part ça, je fais des chansons. Ah bon, on peut les voir? Bon, elles sont pas bonnes. Et c'est pas vrai, il y avait des chansons qui étaient merveilleuses. On l'a présenté à des amis, on l'a présenté à d'autres. Et je me souviens que j'avais un magnétophone. Il n'en avait pas. Et il me dit, avoir un magnétophone, ça serait formidable. Bah, j'ai dit, tiens, tu prends celui-là. Et il est parti avec mon magnétophone. Et je crois que ses premières chansons, c'est avec lui qu'il les a composées.
Quelle surprise nous réserve Philippe Clay?
Eh bien, chers amis, c'est une chanson qui est toute nouvelle, tellement nouvelle que je la connais à peine. Je connais, je crois, le premier refrain. Et c'est une recette, pour toujours servir pour les dames, et pour les messieurs aussi, puisque c'est une recette de cuisine, mais qui s'appelle la recette de l'amour fou. Et voilà le conseil qu'on peut donner. Dans un boudoir, introduisez un cœur bien tendre. Sur canapé, laissez s'asseoir et se détendre. Offrez une larme de Porto, et puis mettez-vous au piano, jouez Chopin, avec dédain, égorgnez vos accords, mais s'il s'endort, alors la jetez-le dehors.
Cette prestation insolite, diffusée le 1er janvier 1958 dans une émission sur l'actualité des spectacles, nous révèle que Philippe Clay est donc le créateur effectif de la recette de l'amour fou, qui aura droit quelques mois plus tard à des enregistrements par différents interprètes. Alors que Serge travaille sur son projet d'album durant l'année 57, Philippe Clay a parlé de lui à Denis Bourgeois, directeur artistique chez Philips. Sans perdre de temps, ce dernier est venu le voir à Milord Larsouille au mois de décembre. Avant de lui faire signer un contrat, une séance d'essai de 5 titres a lieu au mois de février 58 au studio Blanqui, situé dans le 13e arrondissement de Paris. Cette maquette, fort heureusement conservée, a pu être éditée dans l'intégrale de Serge Gainsbourg en 2001.
Tant que t'auras ma belle de chouettes avantages, t'auras des amants, t'auras du succès, t'auras des vacances sur les beaux rivages et des bikinis à tout faire craquer. T'auras des visons, t'auras des bagnoles, des types bien sapés te feront du baise-main. Tu feras des sourires, tu joueras ton rôle, mais tu ne seras jamais qu'une petite putain. Putain des trottoirs, putain des palaces, pour les mecs dans le fond c'est le même tabac. On lui paye son prix, on s'en débarrasse, faut qu'elle fasse l'amour et pas d'embarras. D'ailleurs un beau jour ma batte petite môme, faudra que tu décides à passer la main. Alors en chialant tu te diras que ma pomme, elle avait du bon en tant qu'écrivain. C'est tout ce que t'auras, mes vers à la gomme, ma littérature dont tu t'es foutu. C'est tout ce que t'auras pour trapper les hommes, tes anciens mordus qui te regarderont plus. C'est le seul miroir où tu ne seras pas moche, il est garanti pour l'éternité. Le vieux père Ronsard n'était pas une cloche quand il disait ça à sa mijaurée, à sa mijaurée, à sa mijaurée.
Après avoir entendu cette maquette, Jacques Canetti, le grand directeur de la chanson chez Philips, n'hésite pas à engager Serge et à lui faire éditer ses œuvres dans la maison Touti, qui appartient également à Philips. Un autre personnage qui croise la route de Serge à ce moment-là est Hugo Frey, un chanteur qui écume depuis 9 ans les cabarets de la capitale en s'accompagnant à la guitare. Il n'écrit pas encore ses chansons et se cherche un répertoire, et c'est ainsi qu'en novembre 1957, il découvre à Millor-la-Rsouille Serge Gainsbourg, son aîné d'un an, comme il le racontera à Benoît Dutertre sur France Musique en 2010.
Moi, Gainsbourg, je l'ai découvert également, parce que je m'intéresse beaucoup aux autres. Le talent des autres, est un, comme je le dis tout le temps dans les interviews, est un cadeau du ciel dont il faut profiter, c'est gratuit. Et donc après mes tournées le soir, je faisais 2-3 cabarets pour gagner ma vie, j'allais voir un peu les copains, la concurrence. Et j'ai été voir donc au Millor-la-Rsouille, je suis arrivé, j'ai vu ce type qui chantait avec un visage blafard de pyro lunaire, et il chantait cette chanson. Alors je suis revenu 5-6 fois avec un papier et un crayon, j'ai noté les paroles. Évidemment, j'ai enregistré dans ma tête, parce que je joue d'oreille, comme disait ma grand-mère. Lire la musique, c'est pas nécessaire. Alors moi, je l'ai noté comme ça, et puis j'ai chanté cette chanson avant même que lui-même l'enregistre.
Les chansons que Gainsbourg chante alors sur scène sont « Mes petites odalisques » et « Le poinçonneur des lilas ». Très impressionné par son style, Hugo Frey les relève donc discrètement, puis les met à son propre répertoire pendant plusieurs mois dans des salles de la rive gauche, comme le cabaret « La Polka des Mandibules » ou le restaurant « L'Étable ». Parmi les spectateurs de marque du cabaret Millor-la-Rsouille, Yves Montand est également intéressé par les chansons de Gainsbourg, mais cela ne se concrétisera pas. En revanche, Jean-Claude Pascal obtient plusieurs chansons, dont il partagera d'ailleurs la création avec Michel Arnaud. Puisqu'elle en donne des versions féminines, notamment sur la scène de Bobino en mars 58, lui en fera des versions masculines. En février, il grave avec l'orchestre de Pierre Spears, chez La Voix de son Maître, 12 belles dans la peau et La recette de l'amour fou.
Dans un boudoir, introduisez un cœur bien tendre. Sur un canapé, laissez s'asseoir et se détendre. Versez une larme de Porto et puis mettez-vous au piano. Jouez Chopin avec dédain. Égrenez vos accords et s'il s'endort, alors la mettez-le dehors. Le second jour, faites revenir ce cœur bien tendre. Faites mijoter 3 bons quarts d'heure à vous attendre. Et s'il n'est pas encore parti, soyez-en sûr, c'est qu'il est cuit. Sans vous trahir, laissez frémir. Faites attendre encore et s'il s'endort, alors la jetez-le dehors. Le lendemain, il ne tient qu'à vous d'être tendre. Tamisez toutes les lumières et sans attendre, jouez la farce du grand amour. Dites jamais, dites toujours et consommez. Sur le canapé. Mais après les transports, si l'âme sœur s'endort, alors là, foutez-la dehors.
La recette de l'amour fou et 12 belles dans la peau sont donc les deux premières chansons de Serge Gainsbourg à avoir été publiées sur disque, enregistrées d'abord par Michel Arnaud, puis par Jean-Claude Pascal. Dans la prochaine émission, nous verrons comment l'auteur va prendre son essor au cours de l'été 58 avec Le Poinçonneur des Lilas et la sortie de son premier album. Je remercie Dorothée Goll à la préparation, Éric Boisset à la technique, Massimo Bellini à la réalisation, Marie Chauveau et Marine Decamp pour les archives de l'INA, Frédéric Régent pour son aide précieuse.
À réécouter sur francemusique.fr.